On l'a. On l'a. Parce que je suis sur la planète Mars présentement. Je descends vous rencontrer. Ça fait penser à quelqu'un qui est venu me voir une bonne journée au Café Rencontre Centre-Ville. Il s'approche de moi et dit, Michel, j'ai quelque chose à dire qui est très important. Fait que me penche l'oreille, j'ai dit, c'est quoi? Il dit, je suis un extraterrestre. Là, je ne savais pas quoi répondre à ça. J'ai dit, je voulais être sûr que je l'avais bien compris. Je dis, qu'est-ce que tu viens de me dire? Il dit, je suis un extraterrestre, Michel. Je te le dis, je suis un extraterrestre. Un, deux. C'est parce que Justine me dit plus fort. M'entendez, tout le monde? Il dit, je suis un extraterrestre. Qu'est-ce que vous répondriez à ça, disons? Moi, il a fallu que je réfléchisse un peu, parce que j'ai dit, d'un autre côté, je ne veux pas lui dire n'importe quoi, comprenez-vous? Puis je ne veux pas aussi le débarquer trop vite de sa planète. Je m'approche de lui, puis j'ai dit, moi aussi. C'est vrai, ça s'est passé de même. Puis là, j'ai voulu essayer d'être capable de saisir le moment pour y parler un petit peu de l'Évangile. J'ai dit, tu sais, on est tous des voyageurs sur cette terre. Je l'ai conforté, mais d'une façon beaucoup plus équilibrée. Puis j'ai dit, tu sais qu'il y a une vie après cette vie, etc. J'ai parlé peut-être pas 5-6 minutes. Mais ça m'a donné l'opportunité d'être capable de juste percer cet homme-là, puis arriver à avoir son écoute, puis aussi à lui donner une parole qui pouvait l'encourager aussi, puis de sortir de son monde astral. Ça n'a pas été évident, mais c'est arrivé souvent des cocasses de même au centre-ville de Québec, parce qu'on ne sait jamais à quoi s'attendre. Hein? Moi, je rentre vers 9h le matin, puis la seule chose que je me dis, si on peut passer au travers, ça va être déjà un miracle. Puis quand tu as 250-300 personnes qui viennent dîner, à part de ceux qui viennent déjeuner, puis ça, c'est à tous les jours, là, c'est quelque chose quand même. Si on n'est pas appelé à le faire, je vais vous dire une chose, on va capituler très, très vite. Parce qu'il y a toutes sortes de gens, toutes sortes de cas, toutes sortes de besoins. Puis c'est étonnant. Par chance qu'on s'est bâti une équipe avec les années, puis qu'on est une équipe pas performante, mais une équipe prête à ça. À être capable d'arriver là, puis de se sentir à leur place, puis de savoir en eux-mêmes qu'ils apportent quelque chose à ces personnes-là. C'est ça qui est le plus principal. Puis le but, bien, c'est de les emmener à l'Évangile. C'est évident. Vous saviez, à tous les midis, on apportait un petit mot d'Évangile. Il fallait toujours se préparer un petit peu. Des fois, on le faisait à la course, mais il fallait se laisser inspirer. Des fois, je demandais à Jérémy, t'apporterais-tu un petit mot? Avant qu'il soit directeur, évidemment. T'apporterais-tu un petit mot? Fait que... Oui. On y pensait, qu'est-ce que je vais emporter, là? Mais chaque fois qu'on prend le micro, moi, souvent, je m'inspirais de Spurgeon, puis Ogilvy, puis quelques personnes comme ceux qui ont écrit des pensées du jour, Meyer, etc., etc. Puis je me préparais un peu d'avance. Mais des fois, on n'avait pas le temps de se préparer. Il fallait arriver à brûle pour point, puis dire, bonjour, ça va bien, on est heureux de vous accueillir. Notre cuisinier nous a préparé un repas extraordinaire pour chacun d'entre vous. On vous aime, on est content que vous soyez là. Maintenant, on aimerait vous partager un petit mot d'Évangile. Une fois, Mme Maltais, elle se trouvait sur place. Mme Maltais, qui était l'ancienne ministre des Affaires culturelles, ensuite de ça, elle est passée ministre de la Santé, du Bien-être social, etc. Elle venait de temps en temps. Puis, on fait toujours comme un genre de petit appel. Je lui dis avec très nerveusement, est-ce qu'il y a quelqu'un qui reconnaît qu'il a besoin de Dieu? Madame Maltais lève la main. Oh ben. Puis moi, ça a tout pris mon petit change pour poser la question. Puis toutes les autres ont été ébranlées. Puis elle a dit, oui, moi j'ai besoin de Dieu. Puis Michel, j'aimerais ça que tu pries pour moi ce matin. Bien, c'est pour ça qu'elle est sur le lit, vous allez vous rendre compte, c'est elle qui fait la préface. Fait qu'importe ce qu'on peut penser de Madame Maltais, moi, je le sais que c'est une femme qui était très dévouée envers les pauvres, envers les démunis, envers les souffrants de cette société. Fait pour ça, c'est un honneur pour moi, en tant que responsable, comme ministre, de l'avoir comme d'avoir signé la préface. Mais on avait des raisons très personnelles de lui demander, très personnelles de accueillir son mot, la préface. Une préface extraordinaire, je vous le dis. Je lis ça, puis je me dis, ça se peut pas qu'elle me voie de même. C'est incroyable. Pareil, Christian, ça se peut pas qu'il me voie de même. On se voit. Je ne sais pas pourquoi, mais je me vois pas. Je fais les choses au jour le jour, puis j'avance tranquillement, un peu à la manière de Spurgeon ici, qui dit ceci. Ça ne fait pas partie de mon message. Hein? Qui dit ceci. C'est une pensée que j'ai lue le 20 mai. En parlant de notre engagement envers le Seigneur, puis ce que nous devons faire face à tous les jours, il dit, « Allons seulement de l'avant et notre voie s'éclaircira. » Comprenez-vous? Puis il continue, il dit, « Le Seigneur n'a-t-il pas dit, « Je marcherai devant toi. Cessons de raisonner et osons nous élancer devant, droit devant nous. Il s'agit de l'œuvre du Seigneur. Il nous rendra capables et écartera tous les obstacles. Il rompra les portes des reins, etc. » Puis il termine en disant, « Le chemin est libre devant toi, et le chemin est libre devant la foi. » C'est ça la vie chrétienne, en fin de compte. C'est, chaque jour, voir comme un jour nouveau, puis de faire confiance au Seigneur pour qu'est-ce qui va se présenter devant nous, puis d'être prêt à être capable d'y faire face dans la foi et d'accueillir et de donner, si c'est possible aussi. Fait que, j'en ai ma grosse Bible, le matin, je voulais vous étourdir, mais c'est pas pour ça du tout. OK, le titre de mon message, c'est très simple. J'y réfléchis. Je pense qu'il y a quelque chose pour chacun d'entre nous ici. On trouve ce passage-là dans Hébreux 3, 4 et 6. Et puis, je vais suivre avec un texte en parallèle, Hébreux 11, 10. Donc, Hébreux 3, 4 et 6, vous devez l'avoir ici. « Toute maison, en effet, est bâtie par quelqu'un. Or, celui qui a tout bâti, c'est Dieu. » Pour ce qui est de Moïse, il a été digne de confiance dans toute sa maison comme serviteur pour rendre témoignage à ce qu'il allait être dit. Mais le Christ l'est comme fils sur sa maison. Or, sa maison, c'est nous. C'est puissant, ces passages-là. Il y a de la richesse là-dedans, c'est incroyable. Si nous conservons l'assurance et l'espérance dont nous sommes fiers. Christ l'est comme fils sur sa maison. Celui qui a tout bâti, c'est Dieu. Croyez-vous que nous sommes entre bonnes mains? Croyez-vous vraiment la journée que vous avez consacré votre vie au Seigneur? Puis vous vous êtes livré à lui, puis vous lui avez demandé de prendre les rênes de votre vie. Saviez-vous que vous faisiez un geste étonnant, un geste qui a assurément transformé complètement vos vies? Mais l'œuvre de Dieu, ce n'est pas l'œuvre d'un salut, c'est l'œuvre d'une vie. C'est jour après jour. Nous sommes considérés comme faisant partie de la maison que Christ a construit pour nous et qui a construit, dont il est l'architecte, dont il est le constructeur. Il parle de nous. Il y a beaucoup de gens qui travaillent sur la construction ici, des corps de métier. Vous savez qu'est-ce que vous avez besoin pour construire une maison? Mais depuis que nous avons donné notre vie au Seigneur, le Seigneur sait comment. Si on avait su à quoi on s'engageait, peut-être qu'on aurait dit non. Mais on a pris le risque de dire, « Seigneur, construis ma maison. Elle est plus vivable dedans. Elle a besoin de réparation. » Un peu, nous, avec notre cœur, notre âme, nos besoins personnels, nos défis de chaque jour, Nous avons besoin d'avoir Jésus qui nous accompagne afin de nous donner les instruments, nous donner le raisonnement pour être capable de faire face à la situation avec sagesse. Dieu veut tellement faire encore de grandes choses dans nos vies. Il veut tellement que nous soyons encore plus près de lui. Est-ce qu'il y a une meilleure chose dans la vie que d'être près du cœur du Seigneur? Il n'y a rien de plus grand, je vous le dis. On est tellement de bonnes mains. C'est Dieu qui créa toutes choses. Mais il nous a envoyé le meilleur contracteur au monde pour être capable de nous reconstruire. Et puis les exemples des témoins de l'Ancien Testament nous l'enseignent. Pourquoi ces gens-là, ces témoins-là, ont accueilli l'appel de Dieu dans leur vie? Car ils attendaient la cité céleste qui a des solides fondements. Il parle des patriarches ici. Celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Chaque vie, Dieu a un plan, si vous voulez avoir un titre sur le message. Alors, on va prier, s'il vous plaît. Pendant, Seigneur, que ton regard est tourné vers nous, sur chacun d'entre nous, je prie que tu ouvres nos yeux spirituels afin que l'on puisse saisir et recevoir ce que tu as préparé pour chacun d'entre nous aujourd'hui. Et merci pour Jésus, notre guide suprême. Seigneur, nous l'aimons et nous l'apprécions. Merci pour ce matin. Amen. Donc, tous les patriarches énumérés dans l'Ancien Testament étaient conscients de cette réalité, à savoir que Dieu est l'architecte, je me répète, mais je veux que vous le saisissiez, est l'architecte et le constructeur de toutes choses. Puis le livre de la Genèse, ici, nous le confirme, est très précise à cet égard. Au commencement, Dieu avait un plan. Il créa l'univers, la terre, les animaux, la nature. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu, et il créa l'homme et la femme, et leur donna le pouvoir de bien administrer, de dominer, de se responsabiliser par rapport à ce que lui-même les attendait d'eux. Tous les patriarches étaient conscients de cette réalité. Leur propre histoire confirme cet énoncé, reconnaissant qu'ils étaient des étrangers, des voyageurs sur terre. Moi, plus je vieillis, plus je me rends compte que c'est tellement vrai. Puis quand on s'approprie de ça, quand on s'approprie puis qu'on y croit, là, notre foi, là, quand notre foi est en marche à chaque jour, on n'a plus peur de la mort, on n'a plus peur de faire face à la vie au quotidien, parce qu'on sait que Dieu nous a choisis, que Dieu a un plan pour nous, puis qu'il veut l'accomplir parfaitement. Puis même ça doit y prendre 70 ans, comme ça a pris à Moïse, comme ça a pris à Abraham, comme ça a pris à bien des patriarches, bien, il le fait avec nous aussi. La vie n'est jamais finie tant et aussi longtemps que nous ne croyons pas dans le royaume, tant qu'on n'atteint pas notre but. Le Seigneur n'a pas fini avec nous. S'il y a quelqu'un qui a 80 ans ici, tu peux dire que le Seigneur n'a pas encore terminé avec toi. Parce que le Seigneur a des choses à te montrer encore, à te révéler, afin que tu puisses t'affermir encore davantage, puis que tu aies de l'assurance dans ta vie, puis que tu reflètes l'amour de Dieu, l'amour de Jésus. Tu puisses continuer ton bout de chemin jusqu'à la fin, puis entrer dans son royaume. Son royaume existe. C'est pas, si vous y croyez pas, si vous doutez, approchez-vous de Dieu. Puis allez chercher vos convictions. Mais ça n'arrive pas du jour au lendemain. Il faut investir notre vie. Il faut s'arrêter et savoir que Dieu est là. Reconnaissant qu'ils étaient étrangers voyageurs sur cette terre. Et afin de qu'on puisse saisir cette réalité. L'exemple d'Abraham, je sais qu'on en a beaucoup parlé dernièrement, mais je voulais revenir un peu. Que penser de l'histoire de Moïse, l'histoire d'Abraham? C'est par la foi qu'Abraham, 1900 ans avant Jésus-Christ, s'acheta une tente et partit dans le désert, dans une terre étrangère, sans savoir où il allait et à quoi le Seigneur avait de but pour lui. C'est sûr que pour Abraham, ça a été une chose étonnante que Dieu lui demande de partir sans savoir où il devait aller. Vas-y, je vais te montrer le chemin en cours de route. Mais il y a des situations dans notre vie où un jour, on est obligé de revenir à l'ABC de notre vie chrétienne. Puis de dire, Seigneur, je ne sais pas où je m'en vais avec ça. Qu'est-ce que tu veux faire avec moi dans ces circonstances-là? Je vis telle situation. Je vis une séparation. Je vis des choses difficiles avec mes enfants. Au travail. Avec ma propre vie spirituelle. Où je m'en vais avec ça? Où tu veux m'emmener avec ça? J'ai 40 ans. Il me semble que ma vie est déjà assez avancée. Ben non, à 40 ans. On n'est jamais avancé trop dans notre vie. C'est à 90 ans qu'on est capable de prendre la main du Seigneur et de dire, je suis prêt, Seigneur, à aller te rejoindre. On va avoir atteint un but extraordinaire. Je suis prêt. Seigneur, je suis rendu au bout. Ou là où tu voulais m'amener. Et je peux partir tranquille. C'est ça le grand but, en fin de compte. C'est de partir tranquille, puis partir, puis à savoir qu'on va le rejoindre. Mais en attendant, il faut la vivre, cette vie. Il faut prendre de l'assurance dans notre vie. Il faut chercher les moyens pour rester fort, puis d'être capable de faire face à tout ce qui se présente devant nous. Puis être capable de dire, je ne sais pas où je m'en vais avec ça. Je ne sais pas où je vais me rendre avec ça. Je ne sais pas comment ça va tourner. Mais Seigneur, je te fais confiance parce que tu as décidé pour moi, le but que tu t'es fixé, c'est de t'emmener dans le chemin, d'atteindre ton but. Le titre, c'est quoi déjà? Chaque vie, Dieu a un plan. Chaque vie! Pensez l'histoire de Moïse, un bébé. J'ai une prédication sur Moïse, puis j'ai appris à connaître cet homme-là. Bien, je ne vous l'emmènerai pas. D'une façon étonnante. Puis là, je veux dire ça d'une façon très simpliste. Que penser de l'histoire de Moïse? Un bébé né d'une pauvre femme juive qui a dû l'abandonner dès son jeune... j'ai vu ton petit bonhomme. Il avait peut-être cet âge-là au moment où sa mère a été obligée de le mettre au fleuve dans un panier d'osier. Par la foi. Elle avait comme l'idée que peut-être que quand il passerait devant une telle maison ou devant un tel voisin, quelqu'un le ramasserait. Mais quel étonnant! C'est la fille du pharaon qu'il rencontre. Et puis, tout d'un coup, il devient héritier. Héritier? Une pauvre femme juive, il se retrouve héritier. Appelé probablement à être pharaon un jour, mais il refusait. Il a refusé. Vous lirez l'histoire. Il s'est laissé aller, elle l'a laissé aller à la dérive sur le fleuve pour ensuite être adopté par la fille du pharaon, appelé à la royauté d'une nation prospère et puissante de son époque, c'est l'Égypte, pour se retrouver dans le désert d'Arabie comme berger pendant 40 ans et afin de devenir l'homme choisi de Dieu. Choisi de Dieu pourquoi? Pour libérer le peuple hébreu, retenu en esclavage. Vous connaissez la suite, les 10 commandements. Comment on aurait pu avoir ces 10 commandements-là pour avoir un guide? Ils sortaient d'Égypte, il n'y avait presque pas de notion. Il y avait besoin d'avoir des cordes. Moïse a été préparé pour ça. Mais il a passé par un chemin. Jamais personne n'aurait pensé qu'il aurait passé par ce chemin-là. Dans quel chemin vous emmenez au Seigneur? Par où vous avez dû passer? Et qu'est-ce que vous attendez du Seigneur pour vous aujourd'hui? Les 10 commandements, c'est pour rien, là. Il a traversé la mer Rouge à pied. Moïse. Il avait tellement peur, c'est toi qui disais ça, je pense, qu'il n'était même pas prêt à aller au-devant pour sortir son peuple du pays d'Égypte. Il a été obligé de dire, son dernier argument, ça a été, « Je ne suis pas capable, je bégaye, il n'y a rien en moi qui peut être capable de rencontrer ce besoin-là ou faire ce miracle-là. » Ben, c'est comme si le Seigneur avait dit, « Tu n'as pas encore compris, Moïse, je suis avec toi. » Puis, pour être indulgent à ton égard, je vais te trouver ton chum va venir t'aider, c'est lui qui prendra ta place. Mais il ne savait pas quoi faire avec un bâton. Il n'en voulait plus. Il n'en voulait plus du ministère. Ça vient de venir. C'est fini, moi, cette histoire-là. Mais Dieu l'a ramené. On sait toute l'œuvre qu'il a faite. Chaque vie, Dieu a un plan. Que penser de Noé qui construisait un paquebot, l'arche, dans le désert, sans vraiment réaliser que cela produirait dans l'histoire de l'humanité? La fin d'un monde! Noé! La fin d'un monde. Seuls les membres de sa famille ont été sauvés. Puis les animaux. Il n'y a pas un être humain qui a été sauvé, parce que c'est dur à comprendre, mais il n'y avait pas de mérite, c'est sûr. Si Dieu a posé ce geste-là, c'est parce qu'il y avait une raison qu'on ne peut probablement pas saisir, même si à quelque part la Bible nous l'explique. On n'est pas capable de saisir ça. Il fallait être rendu au bout, là. Dieu avait un plan pour David également, pour Samuel, Samson, Rahab, Gédéon, Pierre, Paul, et ainsi de suite. Que cela puisse nous servir d'exemple pour chacun d'entre nous. Si vous y croyez, évidemment. Que penser de l'histoire du peuple juif? Parce que de ce temps-là, les Juifs, là, ça nous déséquilibre un peu. Hein? On a de la misère à comprendre. Puis là, on se dit, c'est-tu le bonhomme bonhomme que ça prend comme président ou comme premier ministre, je ne sais pas trop. Puis comment ça se fait? Puis là, notre âme est chavirée parce qu'on connaît un peu l'histoire juive. Les Juifs sont présentement 14,5 millions sur cette terre. Le peuple plus vieux. Ils n'ont pas augmenté. Mais après l'Holocauste, ils sont rendus, le 14,5 millions, le même nombre qu'ils étaient avant l'Holocauste. Ils n'ont jamais, je ne sais pas, je n'ai pas fait le tour de la question, je n'ai pas été voir historiquement, mais ce n'est pas évident, ce n'est pas normal. C'est le peuple qui a été appelé, puis c'est le peuple qui est plus en déséquilibre. Une histoire tragique, déroutante, qui dépasse, selon la majorité du monde contemporain, toute compréhension et logique humaine, mais qui prend tout son sens lorsque nous le regardons d'un point de vue spirituel et biblique. Un plan divin pour ceux qui croient dans les réalités spirituelles. Une histoire qui transcende le temps, dont la finalité se clôturera dans l'au-delà. Celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur, cette cité céleste. Nous ne comprenons pas présentement. Et les exégètes ont de la difficulté à être capables d'avoir une bonne théologie à cet égard. Mais c'est la seule façon qu'on va pouvoir comprendre quelque chose, c'est en scrutant les Saintes Écritures. Moi, honnêtement, l'eschatologie, c'est loin pour moi. Parce que j'essaie de vivre au jour le jour. Mon eschatologie, moi, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui le jour du salut. C'est aujourd'hui que je dois apporter une petite part dans ce monde. Mais ça ne veut pas dire que ceux qui sont trempés dans l'eschatologie et qui essayent de deviner quand est-ce que le Seigneur va revenir, à quel moment, bien, bonne chance. Parce que j'y trouve pas encore, c'est vrai que je ne fais pas des grandes études non plus, mais je pensais à Mario Mascotte. Vous connaissez le pasteur Mario Mascotte? Hein? Ça fait 40 ans qu'il nous parle du sujet. Mais là, on commence à se rendre compte qu'il n'était pas si bête que ça, M. Massicotte. Parce que là, il parle de l'Iran, dont on ne voyait pas l'Iran avec la Russie. Pensez-y deux minutes. Les musulmans intégristes avec ce qui était avant le communisme. Pensez-y. Parce que là, tu as la Syrie. Puis là, tu as l'Iran. Puis là, tu as quoi? Tu as la Turquie, qui ne savent pas trop sur quoi se balancer. Qu'est-ce qu'il t'a pour de ça? Tu as la Syrie. Puis là, tu as quoi? À côté, tu as le Liban. Puis à côté du Liban, tu as quoi? Si on sont tous. Ça n'avance plus. Puis ils se forment des. Présentement, ils sont en train de se collisionner, comment le vrai mot? Là. Pardon? Des alliances. Voilà, c'est pas pire, hein? Je l'ai deviné avant lui. Il se crée des alliances. Puis là, on se rend compte, en fin de compte, que Mario, dans le temps, il nous avait parlé de ces alliances-là. D'une façon presque identique qu'on rencontre aujourd'hui. J'ai dit, peut-être que j'aurais intérêt à aller écouter Mario, même si je ne comprendrais pas tout. Toi, tu vas le voir souvent. Non, moi. Ben, OK. Mais on ne peut rien y comprendre. On attend. Puis il faut faire attention pour ne pas trop s'élever contre le peuple juif. Nos origines. Hein? Il faut faire attention à comment on pense. Il faut plutôt prier. Et ça, je ne le comprends pas. Lui, Seigneur, je ne l'aime pas beaucoup. Ça peut arriver que ça. Des fois, on vient fâcher dans notre esprit parce qu'il y a des choses qu'on n'accepte pas. Ça nous fait quoi? Ça nous brise. Ça vous brise. Est-ce que ça vous brise, vous, de voir ce qui se passe au Moyen-Orient présentement? Ce qui se passe au Liban, c'est terrible. Ils ne sont même pas capables d'aller dans le guichet automatique. Puis, ce qui se passe en Afrique, présentement? En Afrique, on n'y comprend plus rien. Une journée, le pays va très bien. Deux semaines après, c'est la guerre civile. Trois semaines après, une réconciliation. Après ça, ça part d'un autre bord. Après ça, il y a une association avec le Congo. Après ça, tu as le Rwanda qui arrive avec ses armes, qui fournit. Après ça, tu as ci. Après ça, tu as ça. Puis là, tu ne sais plus ce que tu t'en vas avec ça. Puis là, toi, assis confortablement dans ta chaise, tu écoutes la télévision, tu te dis, c'est mon pays, ça. Ça n'a pas de bon sens qu'on soit rendu là. Puis là, ça nous fait de quoi? Moi, ça me fait de quoi? Parce que c'est pas une vie. C'est terrible. Chaque vie, Dieu a un plan. Dieu demeure celui qui construit toutes choses. Comme croyants, nous lui devons de saisir la réalité. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers avec le Christ, avec Jésus. Je sais, je me suis égaré un petit peu, là. Mais on va revenir. Ce qu'il faut croire, c'est que le Seigneur a un plan bien défini pour chacune de notre vie familiale. Vous savez, vous êtes en train peut-être de préparer le lendemain des générations futures. Votre rôle n'est pas simplement de prendre soin de vous, puis de vous assurer que vous êtes dans le bon plan de Dieu, mais le plan de Dieu transcende toute chose. Il peut viser mon arrière-petit-fils. Il peut viser l'arrière-petit-fils ou petite-fille. Nos prières sont à ses répercussions. Dans le fond, il ne faut pas juste penser à nous. Dieu a un plan aussi pour nos familles, pour les générations à venir. Qui nous attend dans le monde céleste, encore une fois, comment découvrir un des signes les plus évidents de notre croissance en maturité spirituelle est le désir de plus en plus pressant de connaître Dieu et de chercher à parvenir à discerner sa volonté pour notre propre vie. C'est clé, ça. Je le répète, Un des signes les plus évidents de notre croissance en maturité spirituelle est le désir de plus en plus pressant de connaître Dieu et de chercher à parvenir à discerner sa volonté pour notre propre vie. Plus j'apprends à connaître personnellement le Seigneur Jésus, plus je suis en étroite communion avec lui par la lecture. Un cœur à cœur avec Jésus, plus il m'est facile de discerner sa volonté, son plan. Encourager les gens à lire leur Bible à tous les jours. Des fois, c'est comme prêcher dans le désert. Malheureusement. Puis, c'est pas toujours facile. Puis, on n'a pas toujours le goût à ça. Puis, pour la plupart d'entre nous, au bout d'un temps, on connaît la Bible. On connaît le Nouveau Testament, surtout. Mais il y a des livres, il y a des petites pensées du jour, il y a toutes sortes d'outils qu'on peut avoir. Puis, chaque outil, je vous ai cité Spurgeon le matin. Moi, ça m'a parlé, ça. Puis, la pensée d'hier, elle m'a parlé aussi. Puis, quand j'ai préparé mon message, ça m'a parlé aussi. Puis, quand j'ai parlé à mon petit-fils, c'est passé de quoi aussi? Mais si on n'a pas cet intérêt-là, bien, on va être jamais confortable complètement de notre situation ou de notre condition chrétienne. Un des signes les plus évidents de notre croissance, maturité spirituelle, est le désir de plus en plus pressant de connaître et de chercher Dieu. Plus j'apprends à le connaître personnellement, le Seigneur, plus je suis en étroite communion avec lui, etc., etc. Moi, ce que j'aimais du petit mot sur Café Rencontre, je vous en ai parlé au tout début, c'est que je devais me préparer un petit peu. Même si ça durait juste 3 minutes, il fallait que je me trouve de quoi des fois 1 heure avant, des fois ça arrive à la dernière minute. Mais je suis obligé, mais dans mon obligation, le Seigneur me parlait. Puis quand je donnais le petit mot, le Seigneur me parlait encore, puis ça parlait aux gens en face de moi. Des fois, je n'étais pas dans le mille, mais j'étais peut-être à 30 %, mais au moins j'avais atteint 30 %. Si je n'aurais pas dit un mot, je n'aurais atteint rien. Si je n'aurais pas ouvert ma petite pensée du jour dans le pain quotidien, je n'aurais pas saisi ce que le Seigneur avait pour moi et pour les autres. Puis des fois, ça ne marchait pas pour moi, mais j'avais espérance que ça marche pour quelqu'un dans la salle. Il y en avait un, ben, il y en a un, Seigneur, c'est ce qui est plus important. On lance le filet. Un des premiers posters que j'ai eu, moi, dans ma vie chrétienne, de la première semaine de dans la première année de ma vie chrétienne, c'est un poster d'un gars qui est dans un bateau, puis il remplit son bateau, puis il y a 4-5 bateaux qui le suivent. Plein de poissons. Puis c'est comme, à ce moment-là, je le savais à moi-même que je serais un gagneur d'âme. C'était ça. Pas parce que le monde est poisson, là, c'est pas ça que je veux dire. Peut-être qu'ils sont un peu, mais non. Déjà, j'avais cette idée-là, ce désir-là de servir le Seigneur. C'était là. Je ne savais pas comment ça se ferait, loin de là. Je vais terminer avec ça d'ailleurs, dans quelques minutes. 5 minutes? Okay. Ben, moi, je vais mort. C'est mon leader. Je suis parole de Christian, parole du Seigneur. Mais vous mettez une onction sur toi, Christian. On a tous un peu de l'onction. Hein? Avant d'embarquer, moi, j'ai dit, Seigneur, si je n'ai pas d'onction, je n'embarque pas. Je demanderai à ma femme, j'ai souffert cette semaine pour écrire ça, je vous le dis. Pourtant, c'est simple, hein? Mais avoir les mots justes, c'est pas toujours facile. Puis dire n'importe quoi, bien là, tu prends un risque. Hein? Parce qu'oublie pas qu'il y a des théologiens dans la place ici. J'en connais qui prennent des notes à chaque fois. Puis j'espère qu'il ne me téléphonera pas pour dire, Michel, là, regarde ce que tu as dit là, ça n'a pas de bon sens. Ça se peut que je peux avoir un égarement ou que je peux avoir une mauvaise interprétation. Pas mauvaise, mais pas une interprétation parfaite ou si précise que ça. Mais c'est le risque que je prends. Mais mon risque, c'est calculé. Je suis obligé de me mettre à genoux et quasiment pleurer des fois pour être sûr d'y arriver. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et ainsi accomplir les buts qu'il s'avait fixés à notre égard. À notre égard. L'étroite communion avec Dieu est requise pour avoir accès à la provision et à son orientation. Je t'instruirai, dira le Seigneur dans Psaume 32, 8, et je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Pour chaque vie, Dieu a un plan. On va changer le mot plan, on va dire une direction. Prenez-le pour vous ce matin. Comme ça, quand vous allez arriver dans des situations où vous ne comprendriez plus rien, dites-vous que Dieu Seigneur a un but. Dites-le par la foi. Seigneur, tu dois avoir un but certain, parce que moi, j'en ai, je t'écœurerai. Même si ça va jusqu'à là, dites-lui. Seigneur, j'ai besoin d'être renforcé dans mon âme intérieure. J'ai besoin de la foi qui est inspirée de Dieu, qui vient du ciel. Parce que lorsque notre foi a sa propre limite, Dieu pourvoit pour la foi que nous avons besoin pour être capable de passer à travers la route laquelle il nous a ouvert. Vous savez, chaque jour, nous devons prendre des décisions, effectuer des choix. Certaines de ces décisions et de ces choix peuvent affecter notre vie entière. Il faut réaliser qu'en chacun de nous, il y a des désirs intérieurs de construire, de réaliser des projets, d'établir. Nous avons des rêves, des objectifs, puis c'est légitime. L'esprit humain a des désirs, des besoins à combler. C'est Dieu qui nous a ainsi équipés du pouvoir impressionnant, du libre choix. Nous ne sommes pas, je dis ici, des robots contrôlés par des ordinateurs célestes. Ça passe-tu? OK. Le Seigneur a des projets pour la plupart d'entre nous et nous n'avons pas nécessairement prévu dans notre plan de vie les imprévus de Dieu. Nous serait-il pas merveilleux de combiner et réaliser nos projets en conformité avec le plein assentiment du Seigneur? Ma conclusion, Proverbe 19, 21, « Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais, vous pouvez mettre 10 mais, c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. » Pourquoi ne pas accepter sa volonté sur nos vies, puis lui faire confiance? Le Seigneur a des bonnes choses pour nous. On est sa maison, puis il a le goût de la travailler, cette maison-là, il a le goût d'en prendre soin, parce qu'il nous a appelés à faire partie de sa maison. Tous et chacun d'entre nous, c'est pour ça qu'on peut s'appeler frères et sœurs, hein? Amis. Faisons partie, nous avons le même esprit. Hein? Nous avons été sauvés, nous avons les arts de l'esprit. Nous sommes nés d'en haut, nés de nouveau, nés de Dieu. Nous faisons partie de sa famille. Je vais terminer, j'avais préparé un témoignage, mais je vais laisser tomber. Je vais terminer parce que je sais pas, là. Je sais comment ça se passe habituellement. Mais j'ai fait un bout de chemin avant de me rendre ici ce soir, ce matin. Parce que c'est pas vrai, je ne vais pas emmener ça ailleurs, là, inquiétez-vous pas. Mais... ça, c'est intéressant pour moi. Centre intégré du service de santé des services sociaux de la rive sud de Montréal. Isabelle Lafontaine, intervenante sociale. Vous trouverez un document joint à cette lettre, le sommaire d'antécédents sociologiques. Moi, j'ai été adopté. J'avais pas de parents. Mes parents adoptifs ne m'ont pas gardé. Ils m'ont placé pendant toutes ces années, jusqu'à l'âge de 15 ans. Il a fallu que je me débrouille moi-même. Mais, je n'ai jamais porté une attention spéciale à ma mère biologique. Je me suis dit, ben, non, ça ne sert à rien. Je vais respecter le choix que mon père, ma mère adoptive ont fait. Ils sont venus m'adopter. Donc, je suis adoptif, mais je fais partie de leur famille maintenant. Mais en 69 ou 70, J'ai reçu une couverture application pour avoir les antécédents. Le gouvernement encourage beaucoup ça, surtout pour les liens de sang, les choses semblables. Puis aussi, en même temps, donner la chance aux gens de découvrir qui étaient leurs vrais parents. Pendant ce temps-là, nous, on était en train d'écrire le livre. Puis on était à la fin du livre, puis je pense que Julie, en fin de compte, qui était notre biographe, je pense qu'on l'avait, il était déjà à l'imprimerie, hein? Je reçois ça. Ça vaut la peine que je dise ça. Votre nom d'origine, Sigouin, vous êtes né à 22h25 le soir, le 13 juin 1950, à l'hôpital Miséricorde. Poids, 6 livres et 13 ans, je reçois ça 71 ans après. Taille, 20 pouces. Vous êtes né à terme, le travail a duré 11 heures, vous étiez en bonne santé. Il semble que d'envisager votre adoption a été difficile pour votre mère biologique, vu son attachement envers vous. Il apparaît que votre mère d'origine se résigne à vous confier le 16 février 51 à la crèche de la Miséricorde, afin de vous offrir la meilleure chance, mais non pas sans avoir tenté de réfléchir à différents scénarios qui lui auront permis de rester auprès de vous. D'ailleurs, il est rapporté que votre mère biologique réfléchira à des plans qui lui permettraient de vous garder auprès d'elle. Cependant, dans sa situation, ce contexte de l'époque rendait ça impossible. Au mois de juin 51, je termine pratiquement, elle rapporte votre beauté et un bon état de santé. Aimeriez-vous ça ou qu'on dirait de vous, vous êtes beau? Le 10 septembre 51, votre développement serait normal, vous auriez un appétit vorace et un bon sommeil. Vos parents adoptifs énoncent leur affection pour vous et expriment la hâte que l'adoption soit là officialisée. En même temps, ils parlent de mes parents adoptifs. J'avais rien de ma mère adoptive, j'avais aucune idée. Ça m'aimait, ça m'aimait pas. Ça a été intéressant à moi. Pourquoi qu'elle a quitté mon père? Ben, j'ai toutes les réponses là-dedans. Ma mère avait 21 ans, elle faisait 115 livres, elle mesurait 5 pieds 4. Ma mère, ma vraie mère. Là, il y a d'autres choses. J'ai découvert que j'avais deux tantes, puis 5 oncles du côté du père de ma mère. C'est des oncles. Mais en fin de compte. Pour vous, je ne sais pas ce que ça vous dit, mais pour moi, je sais, là, c'est extraordinaire. Pendant qu'on écrit le livre, qu'on termine le livre, j'aurais pu rajouter ça, puis dire, c'est fermé. On n'a plus grand-chose à dire, à moins qu'on parle d'autre chose. Quand je regarde Julie, puis je dis, sais-tu, ce serait le fun qu'on écrivait quelque chose sur l'amour. Mais on n'est pas une réponse, je pense qu'on n'y a pas encore réfléchi assez pour ça. Alors, Seigneur, on veut juste te remercier et te remettre entre les mains tout ce qui a été dit ce matin, toutes ces paroles de vie, Seigneur. De couvrir les erreurs aussi. Pour certaines personnes, Seigneur, que ce soit une révélation, avoir reçu une révélation ce matin et peut les aider à avancer et à sans peut-être égarer dans leur chemin, mais que tu vas leur ouvrir la route devant eux pour les sécuriser et leur donner un avenir. Je pensais à ça, puis c'est rare qu'on en parle. Il y a des personnes ici qui sont probablement appelées au ministère. Vous n'osez pas. Différentes raisons. Mais moi, j'aurais jamais cru que je serais dans le ministère un jour. Le Seigneur m'a emmené là tranquillement. Puis j'ai pu servir pendant plus de 30 ans. Et jamais trop tard. À 42 ans, je suis rentré dans le ministère à temps plein. Mais Dieu, nous avons besoin d'ouvriers dans la moisson. Et l'appel au ministère, moi, pour moi, part à moi. C'est le meilleur, je ne dis pas que c'est le meilleur métier, mais c'est la meilleure profession. pour moi. Mais, merci Seigneur. Est-ce que quelqu'un aurait une prière des fois, juste pour terminer? Je demande ça parce qu'il y a des personnes des fois qui peuvent avoir quelque chose sur leur cœur. Ça brûle. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Toi? Ça me fait plaisir. Tu veux-tu la dire le mot? Là, tu t'avances un petit peu. Le Seigneur est extraordinaire.
Oui. Notre Père est trop sûr que ton nom est sanctifié, que la règne qui vient. Voyons. Je te repasse sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui le pain de ce jour. Pardonne-toi tous enfants, donne-nous maintenant aussi à ceux qui t'ont remercié. N'oublie pas la tentation, mais ne te fais du mal. Amen.
Amen. Il y a des choses qui nous dépassent dans la vie, mais ça me dépasse.